Il est 18h.
RJB Info.
Le journal Loïc Georgi, bonsoir.
Bonsoir. La préfecture du Jura bernois a lancé un rappel aujourd'hui. Elle souhaite revenir sur certaines communications faites par les autorités prévotoises. Anthony Montandon reviendra sur ces précisions dans un instant. Le voilier, une tendance actuelle. De plus en plus de vacanciers optent pour cette alternative de vacances. L'occasion de prendre la température auprès de l'un d'eux. Baissé de rideau sur le tournoi d'échecs de Bienne, la manifestation semble avoir rencontré un certain succès, mais cette année, les organisateurs se sont particulièrement illustrés au niveau des mesures sanitaires. Météo du soleil et de la chaleur au programme de demain. Samedi devrait être le dernier jour avec de telles températures. Elles feront place à des orages et des averses à partir de dimanche. Le vote de Boutier n'a pas été annulé uniquement à cause de 3 cas de domiciliation fictive. C'est ce que souhaite rappeler aujourd'hui la préfecture du Jura bernois. Dans un communiqué, elle revient sur différentes déclarations faites par les autorités prévotoises en lien avec l'annulation du vote du 18 juin 2017. Vos précisions, Anthony Montandon.
La préfecture souhaite faire cette mise au point. Oui, le vote a été annulé à cause de soupçons de domiciliation fictive, mais pas seulement. Elle rappelle que la justice bernoise a aussi retenu d'autres éléments. Comme l'écrit l'institution, il s'agit en particulier de la lettre adressée aux parents concernés par l'école à journée continue et de l'éditorial du maire de Moutier dans le journal moutier.ch. Ces différentes violations du droit étaient alors chacune ou dans leur ensemble de nature à influencer le résultat du vote, explique la préfecture. Elle rappelle enfin qu'en vue de la répétition du scrutin, la chancellerie d'État du canton de Berne a transmis au début du mois un rapport aux autorités prévotoises. Ces dernières sont appelées à clarifier les domiciles politiques de dizaines de cas qui suscitent encore des interrogations.
Merci Anthony. Et si on partait en vacances, en voilier, fini les camping-cars, les tentes, les hôtels ou autres coins à touristes, c'est ce qu'a voulu faire Emmerich Niederhauser. Le tramelot a décidé ces 2 dernières années de tenter l'expérience de se balader sous les eaux en voilier, accompagné de sa femme et de ses 3 enfants. Pour lui et sa petite famille, l'expérience a été très enrichissante, Emmerich Niederhauser.
Pour notre famille, l'année passée, la semaine autour de l'île d'Elbe était un peu une rencontre avec ces éléments de la nature. On a bien fait connaissance parce qu'on a aussi dû faire passer une tempête en haute mer. Donc, après coup, c'était bien. Moi, j'étais assez serein, mais c'est vrai que mon épouse, à un moment donné, elle se posait quand même un petit peu quelques questions. Donc, on a surtout fait face à toutes ces choses. On s'est rendu compte que finalement, c'est vrai que c'est aussi toute une industrie, mais c'est vrai que c'est tout un monde qu'on ne connaît pas, ce monde, on va dire, marin, mais aussi du charter voilier. Donc c'était surtout cette phase d'apprentissage, de faire connaissance avec ce milieu-là, et puis de voir aussi comment se passait une semaine en voilier.
Emmerich Niederhauser n'est cependant pas le seul à vouloir tenter cette expérience. Voile Évasion à Neuchâtel est une agence qui organise ce type de séjour. Contrairement à un grand nombre d'agences de voyage, celle-ci n'a pas eu de problème à faire son chiffre. Sa gérante Fabienne Lanfranchi explique ce qui a fait pencher la balance.
C'est vrai qu'à partir de juin, lorsque toutes les frontières se sont ouvertes, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes en last minute pour des gens qui voulaient partir tout de même en vacances. Et on a eu beaucoup, en fait, de demandes sur des destinations proches où on peut y aller en voiture, comme le sud de la France ou l'Italie ou la Corse.
Justement, vous parliez de réservation en last minute. Est-ce qu'en termes d'organisation, c'est un peu plus compliqué, j'imagine?
C'était une grande charge de travail, disons, en peu de temps. Mais on a pu bien organiser ça. Et puis c'est vrai que là, maintenant, ça commence à devenir difficile parce qu'il n'y a plus beaucoup de disponibilité en fait, sur ces destinations-là à court terme.
Fabienne Lanfranchi précise également que ce type de séjour ne demande pas de prérequis. La plupart des départs sont accompagnés par un expert. Les feux sont désormais interdits à moins de 50 mètres de la forêt. Le canton de Berne a prononcé cette mesure cet après-midi. Elle s'applique à l'ensemble du Jura, aux communes de Bienne, Evillard, Gleres, Douane-Doucher, Peterlen et Lengnau, ainsi qu'une partie de la Haute-Argovie. Dans ces secteurs, le risque est considéré comme fort à 4 sur une échelle de 5. Les feux d'artifice, eux, sont autorisés à condition d'être tirés à 200 mètres au moins de la lisière des forêts. Ces mesures sont en place jusqu'à nouvel ordre. Le concept sanitaire biennois pourrait servir d'exemple à d'autres tournois d'échecs. Le festival zélandais s'est terminé hier soir. Pour pouvoir organiser un tel événement, les responsables ont évidemment dû développer tout un plan de protection pour éviter la propagation du coronavirus. Le nombre de joueurs a été réduit de 700 à 293. Des plexiglas ont été installés entre les participants et tous les éléments de jeu ont été désinfectés après chaque partie. Le festival de Bienne était la première compétition d'échecs depuis l'apparition de la pandémie. De quoi permettre aiguiller les organisateurs d'autres futurs tournois à travers le monde, pas impossible pour Denis Brirley, responsable média du Festival d'échecs de Bienne.
C'est bien possible, oui. Je pense qu'on a déjà eu quelques questions d'autres organisateurs. Je pense que c'est très bien possible que pour d'autres tournois, ce concept qu'on a fait peut être un exemple. Par exemple, on a eu une demande maintenant de quelqu'un d'Allemagne qui organise un tournoi d'échecs qui a voulu savoir sur le plexiglas quelle grandeur est là. Le trou, le joueur joue, combien de centimètres ça, et puis d'où on peut avoir ça. Donc oui, ça a apporté d'intérêt d'autres organisateurs, et puis c'est pas impossible qu'on peut les aider avec ce que nous avons fait. Ouais.
Ce plan a évidemment coûté aux organisateurs. Ces derniers ont aussi vu les recettes liées aux inscriptions chuter, vu que le nombre de joueurs a été réduit. Ils n'ont toutefois pas encore d'idées précises sur l'état des finances. Rester en Suisse pour les vacances et se mettre au vert, voilà qui a convaincu beaucoup d'Helvètes. Aux Franches-Montagnes, les touristes affluent, notamment pour faire de la trottinette. Cette activité mise sur pied par Juraventure et les chemins de fer du Jura au départ de la gare de Seignelégier est presque victime de son succès. Gilles Surdet, responsable de Juraventure.
Je ne pense pas qu'on était forcément préparé dans la région, mais on s'adapte. Nous, on a déjà un grand stock de trottinettes, hein, passé 120 trottinettes pour une journée. Et puis, on a mis en place du transport supplémentaire de trottinettes. Si vraiment on a un gros afflux, on peut aller rechercher des trottes à Glovelier, les ramener rapidement. À tous les niveaux, on doit réfléchir et puis amener des nouvelles idées, des petits détails pour qu'aux Franches-Montagnes, au Jura, on puisse accueillir tous ces nouveaux clients qui viennent découvrir et qui vont revenir les prochaines années, à mon avis.
La bonne fréquentation de l'été ne devrait toutefois pas suffire à compenser la fermeture au printemps. La saison a en effet commencé avec 2 mois de retard, semi-confinement oblige. La Suisse comptait ce midi 220 cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus, un nombre qui n'est pas comparable à ceux atteints ce printemps. Néanmoins, la prudence est de mise. Les experts de la Confédération sont venus le rappeler aujourd'hui à Berne. L'enjeu désormais consiste à tracer les contacts des personnes contaminées. Cette mission incombe au canton qui semble tenir bon pour l'instant. Les précisions du directeur de l'Office fédéral de la santé publique, Pascal Struppler.
Les cantons ont entrepris de grands efforts pour élargir leur équipe qui s'occupe du contact tracing. On entend aussi que certains cantons arrivent maintenant à une situation de rupture. Il faudra voir s'ils sont en mesure de soit élargir ces équipes, soit peut-être avoir une coopération avec d'autres cantons. Et nous espérons qu'aucun canton sera obligé à déclarer forfait dans cette situation.
Il faut dire que la tâche est fortement chronophage, comme l'explique le médecin cantonal Zougoua Rudolf Auri.
Si on imagine que l'on passe quelques minutes au téléphone avec chaque personne concernée, juste quelques minutes, on peut se représenter le temps que cela prend. Et si on doit prendre plus de temps, par exemple parce que les mesures ne sont pas bien comprises, c'est vite très long et très intensif. Pour avoir un traçage vraiment fiable, il faut aussi que les personnes se rappellent des contacts qu'elles ont eus et qu'elles veuillent s'en rappeler. Et il faut que les données des personnes en question soient fiables. Nous réitérons donc notre appel à la population. Il faut prendre la situation au sérieux et soutenir ce traçage des contacts.
Les spécialistes refusent pour l'instant de parler de deuxième vague de la pandémie. Mais pour que la situation ne dégénère pas, l'Office fédéral de la santé publique a lancé une nouvelle campagne au slogan sans ambiguïté. Le coronavirus est encore là. Le procureur fédéral extraordinaire veut lever l'immunité de Michael Laubert. Il demande aux commissions parlementaires compétentes de lever son immunité afin d'autoriser l'enquête. Le procureur général de la Confédération pourrait faire l'objet d'une procédure pénale. Selon les conclusions de Stéphane Keller, il existe des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible en rapport avec la rencontre entre le procureur général, le président de la FIFA Gianni Infantino et le premier procureur du Haut-Valais Rinaldo Arnold. C'est ce qu'a communiqué jeudi l'autorité de surveillance du ministère public de la Confédération. À l'étranger, reporter l'élection présidentielle américaine. Le président des États-Unis, Donald Trump, évoque aujourd'hui ce scénario pour la toute première fois. Il souligne les risques de fraude liés à l'épidémie. Ce tweet présidentiel a été publié quelques minutes après les résultats économiques désastreux du pays. Le PIB chute de 32%. Donald Trump reste pendant ce temps très bas dans les sondages. Ce recul économique n'empêche pas les États-Unis d'explorer l'espace. La NASA a lancé aujourd'hui avec succès un robot mobile vers Mars. Persévérance, c'est son petit nom. Il veut découvrir des traces de vie ancienne sur la planète rouge.
RJB, il est 18h10.
Sport. Un nouveau Finlandais pose ses valises à la Tiso Arena. Petteri Lindbom patinera sous les couleurs du HC Bien la saison prochaine en National League de hockey sur glace, d'après une annonce faite ce jeudi. Ce renfort défensif arrive de Lausanne où il a évolué les deux dernières saisons. Auparavant, Lindbom avait patiné sur la glace nord-américaine en NHL et en AHL. Le nouvel étranger du HCB est arrivé à la Tiso Arena ce jeudi. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute d'RJB.
Il fait toujours très chaud et très ensoleillé ce soir sur l'ensemble de la région. Quelques cumulus peuvent apparaître sur les crêtes du Jura, mais ils ne sont en aucun cas menaçants. Pas de risque d'orage. Demain, les températures seront toujours très élevées. Une nuit tropicale nous attend de nouveau, avec au lever du jour déjà 20 degrés autour du lac de Bienne. 20 degrés ça ne descendra pas en dessous de 20 degrés en pleine cette nuit. 16 degrés sont attendus sur les crêtes du Jura. Et puis demain, c'est de nouveau une journée magnifique qui nous attend, du beau, du chaud, du très chaud, puisque c'est une journée caniculaire. 36 degrés sont attendus en pleine, 35 dans les vallons et 33 sur les crêtes du Jura. Ah, il faut s'hydrater, se protéger du soleil et mettre de la crème solaire, c'est important.